The French Connection.
Donc, bonjour et bienvenue à notre épisode spécial sur la cybersécurité avec Splunk. Premier épisode sponsorisé à la French Connection. Donc, aujourd'hui, je suis avec Jacques. Salut, Jacques.
Bonjour, Patrick.
Gabriel. Salut, Gab.
Bonjour, Patrick.
Et du côté de Splunk, qui se joint à nous de la France, on a Lionel Gonzalez. Bonjour, Lionel.
Bonjour à tous.
Cet épisode vous est présenté par notre partenaire, Splunk.
Donc, comme premier épisode avec Splunk, on va parler évidemment un petit peu de Splunk et de leur e-book sur la cybersécurité qui vient de sortir sur les prévisions de l'année. Donc, Lionel, si tu peux nous donner un petit background de ton côté, un petit peu une description de Splunk et évidemment sur le e-book.
Oui, donc Lionel Gonzalez, moi, je suis employé Splunk à Paris. Je suis spécialiste en cybersécurité et je couvre une région difficile qui est l'Europe du Sud. Donc, je vais dans des pays comme l'Espagne et l'Italie et la France, dans des pays où on mange mal, on boit mal. Et du coup, j'ai pris 10 kilos depuis que j'ai commencé ce travail. Splunk, en fait, on est assez connu sur la cybersécurité parce que on est une plateforme de données où on peut récupérer n'importe quel type de données. Produites par des machines. Souvent, on pense à des logs, à des captures réseau, mais ça peut être aussi des appels à des API, ça peut être des traces et des métriques. Et en fait, ça, on va s'en servir soit pour aider nos clients à faire de la détection, de l'investigation, et puis de la réponse automatisée sur les incidents de sécurité. Mais de manière plus large, en fait, on est capable d'appliquer ça sur n'importe quel problème autour des technologies de l'information. Donc, on fait de l'observabilité sur les process DevOps, on fait de la supervision traditionnelle sur du maintien en condition opérationnelle. On a un peu tous ces métiers-là qu'on couvre justement pour aider nos clients à maintenir toutes leurs technologies en production et que ça ne s'écroule pas.
Super, merci pour l'introduction. Donc, aujourd'hui, c'est ça, on a quelques questions par rapport au e-book et la sécurité en général. Évidemment, Splunk étant un des SIEM les plus reconnus. Je pense que la majorité de nos auditeurs connaît, mais on va pouvoir aller un petit peu plus loin puis parler justement des prévisions de l'année en plus versus ce que vous voyez dans tout ce qui se passe dans les trafics réseaux de votre côté. Donc, on commençait avec les questions. Jacques, tu as la première aujourd'hui, donc je te laisse introduire le tout.
Alors oui, ben d'après vous, je sais que Splunk c'est beaucoup plus une solution là, d'entreprise, c'est pas nécessairement des PME qui vont faire l'acquisition d'un système comme Splunk, à moins que je me trompe. Mais d'après vos prévisions, d'après votre expérience en cybersécurité, quels sont les plus grands risques pour les PME aujourd'hui?
Ouais, alors, juste sur la partie PME, en fait, on a des clients de toutes les tailles. Hein. C'est un désavantage de Splunk, c'est qu'on peut commencer tout petit. Et on a un client en France qui ingère 1 giga de données par jour et qui réussit à faire toute sa sécurité avec ça. Puis à côté de ça, effectivement, on fait des grosses entreprises qui récupèrent plusieurs terrains, voire plusieurs pétas de données par jour sur la plateforme. Donc ouais, on est capable de faire ça. Sur la question pour les PME, y a plusieurs problèmes en fait pour les PME, c'est que déjà en soi, elles ont souvent pas conscience qu'elles peuvent être une menace. Et une PME en elle-même peut être une menace parce que de toute façon, les types qui sont en attaque, ils sont intéressés par n'importe quelle cible, soit qui vont leur apporter de l'argent, soit qui vont leur apporter un autre avantage. On a eu un bon exemple en Suisse francophone il y a quelques années, où il y a un gang de pirates qui systématiquement pendant 6 mois a ciblé toutes les PME autour du lac Léman avec une attaque au président. Et il y en a plusieurs qui se sont fait avoir pour plusieurs millions d'euros. Ça a été systématique et en fait les PME sont moins bien préparées parce que d'une part elles n'ont pas conscience qu'elles sont une cible, d'autre part elles n'ont pas forcément les moyens non plus d'avoir une équipe sécurité à temps plein. Donc il y a ce problème à la fois de pas être conscient que je peux être une cible et j'ai pas la connaissance de ce que peut être une attaque qui les rend plus faciles. Et puis ça peut être une cible aussi parce qu'elles sont fournisseurs de quelqu'un d'autre, elles ont des clients et au final la cible ça peut être le client, l'entreprise plus grosse qu'elles sont en train de fournir et ça peut être un bon moyen de rebond, on l'a vu chez pas mal d'entreprises, hein. Un bon moyen de rebond pour aller cibler quelqu'un d'autre. Et dans ces cas-là, c'est des attaques qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus difficiles à détecter. Et la PME peut être un bon moyen justement d'aller rebondir vers ces entreprises. Et pour répondre à ce type de... Ouais. Pardon, Patrick.
J'allais dire, c'est un des sujets qu'on parle fréquemment sur le podcast. Généralement, le problème qu'on voit plus politique en PME, c'est le fait qu'ils ne pensent pas qu'ils peuvent être une cible. Fait que j'aime le concept qu'ils peuvent être aussi un pont vers d'autres.
Oui, exactement. Et justement, on travaille avec des partenaires pour avoir des offres très packagées de sécurité opérationnelle. Des choses beaucoup plus simples, des boîtiers au final qu'on poserait où on récupérait de l'information et on pourrait répondre à ce type de besoin. Pourquoi on travaille sur ces sujets-là? Mais c'est à la demande aussi de grosses entreprises qui ont des problèmes de chaîne de fournisseurs. Si je prends une entreprise comme Airbus en France, c'est 12 000 fournisseurs. Et parfois, il y a des fournisseurs qui sont essentiels, qui sont des petites entreprises de 10, 20, 100 employés qui n'ont pas les moyens d'avoir de la cybersécurité. Et par contre, si elle tombe, c'est toute la chaîne de production qui va tomber. Et là, ça devient critique d'aller leur fournir de la sécurité. Donc là, on est en train de regarder comment on peut avoir des choses très packagées, très simples à mettre en place, qui permettraient aussi de les protéger un minimum de protection dans leur activité.
Donc, ce qui mène à peut-être la question 2, c'est justement, quel est ce minimum-là que les entreprises devraient faire pour se protéger?
Oui, ça, c'est un bon point. Et c'est toujours difficile, en fait, de dire quel est le minimum. Alors, effectivement, il y a une base. Il y a une base qui est la bonne hygiène de sécurité. Et pour les Français qui nous écoutent, d'ailleurs, il y a l'ANSSI, qui est l'Agence de sécurité nationale en France, qui publie régulièrement des guides sur les bonnes pratiques où on va retrouver une quarantaine de points à regarder. En fait, ça passe par quelques actions simples mais importantes. Je pense que la première, c'est la formation des gens. Les gens ne sont pas assez sensibles à la cybersécurité. On le disait, c'est les PME pensent qu'elles ne sont pas une cible. Du coup, elles se sensibilisent pas. Et par contre, il y a des ressources. Il y a des ressources qu'on peut trouver sur le site de l'ANSSI, chez des vendeurs de sécurité, pour comprendre quelle est la sécurité et quel est le problème de la sécurité et en quoi, en toute bonne foi, moi, en faisant mon travail, je peux mettre à risque la sécurité de mon entreprise. Ça, c'est le premier point de mon point de vue. Et après, il y a des vraies mesures d'hygiène de cybersécurité. S'assurer qu'on a mis en place de l'authentification forte sur les ressources critiques. Essayer au minimum d'avoir identifié quelles sont les ressources critiques dans l'entreprise, même si je suis une petite entreprise, au final, ça devrait être assez rapide de comprendre ce qui est critique pour moi, pour mon fonctionnement et ce qui pourrait m'empêcher de fonctionner correctement si j'avais une attaque. Donc, quelles sont les quelques applications critiques dont j'ai besoin, mais aussi quelles sont les quelques personnes critiques. Je parlais d'attaque au président. Est-ce que j'ai mis en place les bons process de contrôle, même si je suis une petite PME, si jamais j'ai une attaque au président pour bien valider tous mes process de paiement. Donc, il y a quelques points d'hygiène comme ça qui sont importants. L'authentification de facteurs. Est-ce que j'ai bien protégé mes postes de travail? Est-ce que quand mes utilisateurs sont en déplacement, je leur ai bien expliqué ce qu'il fallait faire. Est-ce que j'ai mis un minimum de chiffrement sur mes données? J'ai eu l'exemple, avant j'habitais à Toulouse, j'ai eu l'exemple d'une PME locale, une boîte de développement, où ils pensaient absolument pas être une cible. Ils avaient très peu de moyens de protection, mais plus que ça, ils n'avaient pas de sauvegarde. Et ils faisaient du développement dans le domaine de la défense. Et un jour, ils sont arrivés dans leur bureau et ils n'avaient plus de disque dur sur leurs ordinateurs. Plus aucun. Tout était parti. Donc, il y a quelques mesures comme ça, l'authentification, la protection des données, l'identification de ce qui est vraiment sensible, qu'on devrait aider les PME à mettre en place. Et là, il y a quand même des ressources avec des minimums de checklists qu'on peut trouver sur Internet assez facilement qui peuvent aider sur ces aspects-là.
Puis, avant de passer à la prochaine question, par rapport à toutes ces mesures-là, à quel point on doit ingérer les logs? Parce qu'évidemment, tout ce qui est visibilité, monitoring avec Splunk, la difficulté généralement, c'est de savoir quoi journaliser puis combien. Est-ce qu'on a un conseil à ce niveau-là pour autant PME que grandes entreprises?
Ouais, dans les grandes lignes, il y a quand même un minimum de fond qui est... l'activité réseau dans les grandes lignes, tout ce qui rentre, tout ce qui sort, réseau, firewall proxy,
un minimum de ce qui se passe sur le poste de travail, sans forcément tout récupérer ce qui se passe de ce qui se passe sur le poste de travail, mais s'il y a une suite de sécurité, récupérer ça, et puis toute la partie authentification. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de comprendre qui fait quoi où. Et si jamais j'ai un incident de sécurité, être capable de faire de l'investigation sur tout le parcours de mon utilisateur. Là, si j'ai un minimum pour faire ça, ben, je vais avoir un minimum sur l'investigation. Puisque tu parlais de l'histoire de la collecte de logs, il y a un point qui est important et qu'on retrouve très peu dans les PME. Effectivement, c'est la journalisation. Et la journalisation sur une durée suffisamment longue. Ça m'est déjà arrivé d'arriver en investigation dans une boîte. Ils nous disent, j'ai une attaque en ransomware, vous pouvez m'aider. Et là, tu leur demandes, bah oui, mais où sont vos logs? Ah oui, mais les logs firewall, on les garde pendant 1 heure. Ah oui, mais une heure, on peut pas faire grand chose sur une investigation. Donc, si on peut avoir au minimum 1 mois de journalisation, déjà, c'est pas mal pour aller faire de l'investigation. Et avoir des process qui récupèrent ces logs-là et les gardent ce temps-là, c'est pas mal. Et sur ces points-là, sur de l'activité réseau, sur de l'authentification et ce qui se passe sur le poste de travail, là, c'est le minimum. Si en plus, on a ce qui se passe sur les applications critiques, etc., là, c'est encore mieux.
Super, ça fait bien du sens. Évidemment, faut en avoir un minimum pour pouvoir faire une enquête. Ça fait beaucoup de sens. Revenons au e-book. Selon Splunk, selon toi, c'est quoi les grands risques de 2022 en termes de sécurité sur Internet? Ça, en général, mais si ça peut être par type d'entreprise aussi.
Ouais, le e-book dont on parle, en fait, c'est un e-book qu'on a publié sur les prévisions et les stratégies de survie dans la sécurité pour 2022. Ce qu'on va trouver comme grand risque, il y a un classique, c'est toute la partie ransomware, mais celui-là, je dirais qu'on le traîne comme un boulet depuis quelques années quand même, et c'est pas prêt de s'arrêter. Par contre, les ransomware évoluent aussi, hein, parce que les types qui sont en attaque, ils se sont industrialisés depuis quand même un petit moment, et ils ont bien compris qu'il y avait des techniques d'attaque qui étaient intéressantes pour eux, même s'ils sont pas très imaginatifs, parce que les techniques d'attaque changent pas tant que ça au final. Mais toutes les attaques sur la chaîne logistique, je pense qu'elles ne vont que s'accélérer. On a eu des bons exemples en 2021, hein. Ça a commencé avec SolarWinds, qui est à cheval entre 2020 et 2021. Mais quand tu regardes SolarWinds, Kaseya, les effets de bord de SolarWinds avec Afnium, ça a quand même été un bon thème sur 2021, et je pense que ça va s'accélérer là sur 2022. On a fini l'année en beauté avec Log4j. Donc toutes ces attaques sur la chaîne logistique, même si elles sont pas nouvelles, je pense que là, elles vont prendre de l'ampleur parce que ils ont compris que c'était un vrai mécanisme intéressant pour eux en attaque. Faut pas oublier que la première attaque en chaîne logistique, enfin le premier grand exemple qui me vient en tête, c'est quand il y a eu l'attaque sur Lockheed Martin en 2010 avec l'attaque sur RSA. On n'a pas trop entendu parler pendant une dizaine d'années, et puis là ça se réaccélère, et je pense que ça va y avoir un effet boule de neige là sur cette année. Après, il y a la grande question qu'on se pose, en fait, c'est on a quand même beaucoup d'entreprises qui sont en pleine transformation numérique, qui sont en train de bouger beaucoup d'activités vers le cloud. Et au final, est-ce que 2022 ça va pas être l'année de la grosse attaque vers le cloud et faire tomber un gros fournisseur de cloud? Alors des attaques vers le cloud, il y en a eu, hein. Si on regarde 2020, il y a quand même eu 4 vulnérabilités majeures sur les interfaces d'administration AKS, les Azure Kubernetes Service. Donc il y a des vulnérabilités, ça existe. Mais par contre, on n'a pas encore eu de grosses attaques qui rentrent directement dans l'infrastructure des gros fournisseurs de cloud et qui fait tomber des pans entiers de ces services-là. C'est un des risques de cette année.
Est-ce qu'on inclurait dans ce risque-là les erreurs que les clouds font en tant que telles? Parce qu'on en a vu là Facebook qui est tombé par une mauvaise configuration, des choses comme ça. Ça fait-tu partie d'une prédiction que les entreprises doivent prendre ou?
C'est toujours un risque. C'est, en, puisque tu parlais de risque, c'est un sujet qui est intéressant. Moi, ce que j'aime bien aller voir tous les ans, c'est un document qui est produit par un assureur qui est Allianz. Et tous les ans, il produit un document qui s'appelle le Global Risk Barometer, où ils interrogent plein d'entreprises dans le monde sur qu'est-ce qu'ils considèrent comme étant du risque. Et en fait, régulièrement, ce qui arrive en tête, c'est l'arrêt de la chaîne de production et le cyber-risque. Et dans le cyber-risque, ils mettent justement à la fois toute la partie cyber-attaque et les erreurs elles-mêmes. Et ça peut faire partie effectivement des choses qui sont à prendre en compte par les entreprises. Au final, je délègue une partie de mon infrastructure à un fournisseur de cloud et quel peut être le risque que tout s'écroule. Alors, c'est des choses qui sont quand même bien rodées, hein. Mais on n'est pas à l'abri d'erreurs humaines. Hein.
De transformation numérique plutôt, puis vu qu'on est dans le sujet un peu des PME, puis ça me fait penser un peu à la question du télétravail. Vu qu'on était un peu dans les prédictions 2022, les prédictions que j'avais dans les années précédentes, j'avais l'impression que l'arrivée du télétravail allait faire en sorte qu'il allait avoir des problèmes de cybersécurité accrus à cause de ça, mais pourquoi on dirait que le télétravail n'a pas créé plus de problèmes de cybersécurité jusqu'à maintenant?
Alors, c'est une bonne question, mais je pense qu'en fait, le télétravail a créé plein de problèmes de cybersécurité. Par contre, ça n'a pas créé un écroulement majeur comme on aurait pu s'y attendre. Je suis d'accord avec toi. Moi, je m'attendais à ce que le télétravail crée des problèmes dans tous les sens et qu'on voit un effet domino sur plein d'entreprises qui soient impactées par ça. Si on regarde ce qui s'est passé en 2020 au moment du confinement, il y a eu une explosion des attaques d'un côté, mais vraiment une grosse. Hein, on a atteint des pics à 8000% d'attaques en phishing autour du Covid. Ça a été des chiffres assez étonnants. Et paradoxalement, on n'a pas forcément eu il y a eu plein d'entreprises qui se sont fait attaquer, hein, mais pas forcément plus qu'avant. Donc je suis d'accord avec toi, ça, de ce point de vue-là, ça n'a pas créé plus de problèmes. Et je pense que c'est parce que, d'une part, les équipes de sécurité ont bien réagi. C'est-à-dire que, effectivement, elles n'étaient pas prêtes à gérer ce télétravail. Mais par contre, elles ont bien transpiré et on a eu quand même des exemples d'entreprises qui n'étaient pas prêtes du tout, où les équipes de sécurité ont réagi très rapidement pour mettre en place des mesures pour permettre de télétravailler. Et en fait, un des phénomènes qui s'est passé, c'est que ils n'étaient pas prêts à l'organisation du télétravail. Du coup, pour permettre que le fonctionnement de l'entreprise continue, ils ont diminué le niveau de protection. Et ils ont compensé ça par en élevant le niveau de détection. Ça a été le premier truc. Donc, on baisse un peu les barrières, mais par contre, on allume les miradors et on met en route les systèmes d'alarme un peu plus que ce qu'on faisait avant. Donc, ça a permis un petit peu d'amortir le choc. Et puis, le deuxième truc, c'est qu'au final, tous ces employés qui étaient en dehors du périmètre de sécurité classique, ça fait une extension du périmètre de sécurité. Mais au final, ça a aussi laissé du temps aux équipes de sécurité de se dire, on va avoir cette masse d'employés qui va revenir un jour et on ne connaît pas trop l'état de leur machine. Parce que peut-être qu'ils ont piqué l'ordinateur de leur fille pour continuer à travailler parce qu'ils n'étaient pas prêts. Donc au final, on ne sait pas trop qui va nous revenir. Par contre, on va mettre en place un plan de retour au bureau, de retour à l'activité normale. Et donc, j'ai plein de clients avec qui on a travaillé justement sur ces plans-là, sur comment j'organise ma collecte de données pendant que les employés sont à l'extérieur. Et au final, si je vais rebrancher une machine sur laquelle j'ai pas pu collecter de données pendant 3 mois, je connais pas bien son état. Je vais la traiter un petit peu différemment. Tant que j'ai pas fait une remontée de données correcte et appliqué un certain nombre de mesures de sécurité que je vais automatiser, je vais pas lui donner un accès complet aux ressources qu'elle avait avant. Et donc il y a eu cet effet-là où ils ont pris des mesures, ils ont mis au point des trucs où le fait au final d'être en confinement, ça a un petit peu amorti ça. Ça leur a permis de réfléchir à ça, quelles étaient les bonnes pratiques à mettre en place là-dessus. Et ça, à mon avis, ça nous a bien aidé aussi à amortir le choc de ce qu'a été le télétravail, de ce qu'a été cette masse d'attaques qui en a découlé sur des entreprises qui n'étaient pas prêtes du tout.
Puis est-ce qu'on en a vu des attaques qui sont passées via les personnes en télétravail en termes de statistiques? On a-tu une vision là-dessus ou...
Alors, j'ai pas de statistiques, mais j'ai des exemples. Hein. Quand je parlais, je vais piquer l'ordinateur de ma fille, ça c'est un vrai truc. Et par contre, c'est une attaque qui était un peu flippante parce que l'outil qui était utilisé pour attaquer, quand il était sur le réseau de l'entreprise, il était dormant. et il ne communiquait avec son commandant de contrôle que quand il était en dehors du réseau de l'entreprise. Donc il attendait que le type coupe le VPN pour faire son travail de communication de données. Donc c'était quand même assez enfin ça donne une idée du niveau de technicité des types qui sont en attaque et c'est assez effrayant.
Fait qu'ils savent qu'il y a de la journalisation à l'intérieur quand ils sont connectés au VPN, mais pas en dehors. Fait que c'est quand même intéressant.
Là. Après, il y a des groupes d'attaque qui sont quand même spécialisés. Le premier truc qu'ils font, c'est cibler l'infrastructure de journalisation. Tu vois des APT31 ou des gens comme ça, le premier mouvement, ça va être comment ça journalise et comment je coupe la journalisation pour éviter de détecter. Ça, c'est un peu flippant aussi, surtout quand ton métier c'est la journalisation. Du coup, tu te sens un petit peu ciblé.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Gabriel, on a une question un petit peu plus.
Oui, avec les dernières avancées technologiques dans les derniers 10 ans, on a vu beaucoup de technologies qui se basent sur le machine learning et l'intelligence artificielle. C'est une grosse. On est dans un été de l'IA encore. Fait que pourquoi avec toutes les solutions, produits de cybersécurité sur le marché, avec toutes les avancées que le machine learning et l'IA permet, est-ce qu'on voit quand même des augmentations significatives dans le nombre de cyberincidents?
Ouais, c'est une très bonne question et je me la pose presque tous les jours en fait, parce que ça fait 20 ans que je fais de la cybersécurité, je me dis, j'ai un peu l'impression qu'on progresse pas, ou en tout cas qu'on progresse pas aussi vite que les gens qui sont en attaque. Mais je pense qu'il y a un premier bon point dans ta question, c'est que tu dis avec toutes les solutions qu'on a en place, et un des premiers problèmes au final, c'est que l'industrie de la cybersécurité a été très très forte pour qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau type d'attaque, on invente une nouvelle solution. Donc il y a un nouveau type d'attaque, on va inventer une nouvelle boîte pour aller répondre à ce problème-là.
J'ai l'impression souvent que c'est qu'il y a une course aux armements. Quand on est en cybersécurité, ouais. Fait que d'un côté, t'as toujours une question de double usage où un outil de défense peut servir à l'attaque de l'autre côté et chacune des places, c'est tout le temps juste. Je pense que c'est la plus grosse militarisation exponentielle que je connaisse, la cybersécurité.
Ouais, ça n'arrête pas. Et puis au final, quand t'es en défense, on se retrouve avec des entreprises qui ont entre 15 et 30 technologies à gérer pour se protéger. Donc ça fait. Une espèce de nuage de technologie qui va leur fournir de l'information par rapport aux attaques et ils sont submergés sous ce volume d'attaques et au final ils ont du mal à voir ce qui est vraiment important dans tout ça. Et donc effectivement on a beaucoup attendu du machine learning pour venir nous aider à faire de la détection. Il y a des domaines où ça marche, hein. Il y a des domaines où quand tu regardes des solutions type EDR, MDR, il y a du machine learning qui marche, de l'analyse comportementale. Je suis beaucoup plus réservé sur le terme intelligence artificielle. L'IA en sécurité fonctionnera le jour où on aura des IA capables de conduire des voitures. Alors, tu me diras, on n'en est pas loin. Bah ouais, mais n'empêche, ça marche pas encore complètement. On n'a pas encore complètement des voitures autonomes partout. C'est un peu le même problème parce qu'on n'a pas encore des IA suffisamment robustes pour être sûr qu'elles sont capables de faire le boulot d'un analyste de sécurité correctement. Et quand tu regardes, il y a un papier qui a été publié en 2019 par un chercheur allemand qui était vachement intéressant parce qu'il expliquait qu'il avait entraîné une IA à détecter une IA pour attaquer. Il l'avait entraîné pour détecter les IA qui étaient en défense et créer des mécanismes de contournement. Donc l'IA d'attaque était suffisamment intelligente pour détecter qu'elle était face à des IA et trouver le moyen de les contourner. Comme tu le disais, c'est vraiment la course à l'armement. Et donc, on va toujours avoir, dès qu'on a un moyen de défense, un type qui va être plus malin et qui va trouver le mécanisme d'attaque. Et puis l'autre problème, c'est qu'on est, on est très déséquilibré au final. Parce qu'en défense, on est obligé de tout défendre.
Donc on
a le périmètre complet.
Où est le maillon faible, Lionel? Est-ce que c'est... Parce qu'il y a des, on se le cache pas, là, il n'y a pas juste Splunk, il y a des centaines et des centaines de joueurs au niveau de fournisseurs, de solutions cybersécurité. Il y en a beaucoup qui se disent la pilule magique, installez mes affaires, vous allez être sécure, et on voit une montée fulgurante des cyberattaques. Donc, est-ce qu'on vend, comme on dit, du snake oil, là, ou est-ce que ce sont les entreprises qui, peut-être, ne prennent pas le soin de bien déployer, de bien apprendre, de bien se protéger. Il y a un manque à quelque part, là. Il y a un maillon faible.
Bah, il y a un peu de tout. Hein. Je connais pas le niveau de maturité à Québec ou au Canada sur des entreprises en matière de sécurité, mais en France on n'est pas à un niveau particulièrement élevé. On manque vraiment de sensibilisation sur ces sujets-là. Donc effectivement, il y a un effort à faire à la fois en termes de sensibilisation, mais aussi en termes de budget. Quand tu regardes le budget sécurité, quand on a de la chance, c'est 4% du budget de l'IT, et quand on n'a pas de chance, c'est 1%. Donc c'est assez faible. Et puis effectivement, on a beaucoup de vendeurs qui nous ont prédit « j'ai la pilule magique ». Personnellement, je ne crois pas à la pilule magique. Je pense que je suis trop vieux pour ça. Donc effectivement, le snake oil, on a eu quelques vendeurs. Par contre, il y a un modèle que j'aime bien, c'est le Zero Trust, parce que je suis parano. Et donc, le côté ne faire confiance à personne, c'est un modèle que j'aime bien. Et te dire, même si j'ai mis en place des solutions de sécurité, je vais pas forcément lui faire confiance et je vais rajouter une couche supérieure qui va aller superviser ma solution de sécurité d'une autre manière. Et donc, avoir du recouvrement entre tes différentes solutions, comme on peut le voir sur le modèle Zero Trust, ça peut être pas mal.
Oui, c'est une des choses que j'ai vu que dans la majorité des entreprises, malheureusement, c'est pas dans les processus de dire j'achète un logiciel de sécurité ou peu importe relié à ça. C'est rarement tester la sécurité du logiciel de sécurité. Fait que c'est sûr que
alors
c'est de la confiance aveugle un peu, si on peut dire.
Là où je te rejoins, c'est sans forcément tester la sécurité du logiciel, c'est au moins tester que ça. Qu'on l'a mis en place correctement. Enfin, ça peut être des problèmes de configuration, ça peut être des problèmes d'erreur humaine. Faut être capable de tester que toute ta chaîne de détection, d'investigation et de réponse est capable de répondre à tes problèmes.
Parfait, merci. Pour terminer, dernier sujet, puis c'est un des noms, des mots ou buzzword, peu importe comment qu'on peut l'interpréter, qui devient de plus en plus populaire. Qui date quand même de quelques années, mais qu'aujourd'hui est pas mal partout. DevSecOps, développement sécuritaire avec le côté opérationnel. Comment qu'on peut utiliser un CIM pour mettre en place un processus de DevSecOps? Personnellement, j'ai jamais vraiment vu cette intégration-là, fait que ça m'intéresse vraiment beaucoup.
Ouais, faut que je te montre ce qu'on est capable de faire sur Splunk dans ce cas-là. Plus sérieusement, en fait, déjà on a un problème de définition parce que DevSecOps, en fait, suivant les personnes à qui on parle, ça recouvre deux grands sujets différents, qui est comment je vais sécuriser ma chaîne de DevOps. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième problème, le deuxième terme que j'ai vu où ça recouvrait DevSecOps, c'est comment je vais appliquer du DevOps à la sécurité. Bon, ça tombe bien, chez Splunk, on est capable de faire les deux. L'application, enfin la sécurisation du process de DevOps, c'est un sujet qui est important et qu'on voit de plus en plus demandé par les entreprises. On parlait de transformation numérique, il y a plein de boîtes qui partent sur du DevOps et souvent l'équipe sécurité n'est pas au courant. Donc c'est un problème parce que du coup elle n'a pas de visibilité là-dessus, ni sur les process de développement, ni sur la mise en place opérationnelle et sur des mises en place opérationnelles très rapides. Ce sur quoi on a travaillé, nous, c'est justement la capacité à couvrir l'ensemble de la chaîne. Parce qu'on s'est rendu compte que les types qui sont en attaque, ils sont très malins, et du coup, ils sont capables de remonter sur la chaîne et d'aller injecter des attaques au niveau du build, au niveau du packaging. On a eu des exemples, hein, ne serait-ce que l'année dernière. Il y a eu un super papier fait par un gars qui s'appelle Birsan sur comment il a réussi à injecter des bibliothèques d'attaques, c'est un chercheur en sécurité, hein, dans des boîtes comme PayPal, comme Apple. Et vraiment, c'est une super preuve de concept, mais on a eu aussi d'autres exemples d'injection de code sur du JavaScript pour aller récupérer des numéros de carte bancaire. Donc l'idée, c'est vraiment comment on va être capable de récupérer de l'information sur toutes les chaînes, le build, le test, le packaging, la mise en production, pour avoir une visibilité complète. Et nous, ce qu'on a construit, c'est la capacité justement à aller construire cette visibilité complète, et à chacune des étapes, de construire un score de risque. Et donc de dire j'ai un score de risque qui est en train d'augmenter sur une de mes étapes, je vais aller essayer de comprendre pourquoi j'ai un risque qui est en train d'augmenter pour aller donner cette visibilité là.
Puis est-ce que ça s'intègre dans le pipeline, dans le CI/CD?
Ouais, en fait, on va récupérer toutes les informations du pipeline. justement pour avoir cette visibilité-là. Alors, okay. Ça peut être des informations. Est-ce que en tant que développeur, tu avais le droit de faire ce build? Est-ce que cette mise en production, elle correspond à un ticket Jira et effectivement elle est autorisée, ou est-ce que ça va être une mise en production sauvage? Est-ce que j'ai une de mes bibliothèques dont j'étais dépendant sur mon logiciel qui est devenue vulnérable quelque chose, et du coup ça augmente le risque? Donc il y a plein de choses qu'on peut faire à partir de ça.
Super, très intéressant. Mais vous avez aussi un e-book là-dessus, c'est ça, ouais?
Oui, sur toute la partie DevOps. Alors c'est un sujet qu'on aborde dans l'ebook sur les prévisions pour 2022. Mais on a aussi des choses qui sont si vous allez sur le site de Splunk, on a un ebook sur toute la partie supervision IT, observabilité. On a aussi des exemples sur comment les données observabilité peuvent servir à faire de la détection en sécurité. Et le dernier point que je voulais mentionner, qui est le deuxième pendant en fait des histoires de DevSecOps. Je sais, je parle beaucoup, mais j'ai bientôt fini. Sur les histoires de DevSecOps, c'est comment au final les équipes de sécurité qui souffrent un petit peu de ces histoires de DevOps, parce qu'elles sont très rarement embarquées dans ces process-là, comment au contraire elles peuvent bénéficier du DevOps pour aller mieux faire leur travail de sécurité. Et en fait, on a travaillé avec des clients justement sur comment on pouvait appliquer des principes de DevOps pour être plus efficace sur la mise en place de la sécurité opérationnelle. Et donc, on a travaillé sur comment je peux très rapidement mettre en place des nouvelles détections, identifier un nouveau risque, mettre en place de nouvelles détections, tester ces nouvelles détections, et derrière, être capable de les pousser en production très rapidement. Et là-dessus, en fait, on a publié un outil en open source qui s'appelle AttackRange, qui te permet très rapidement de monter une infrastructure complète d'un petit fichier de configuration où tu vas lui dire, par exemple, j'ai une machine cible qui est un poste de travail Windows, j'ai un domaine contrôleur, et puis derrière, je vais construire un Splunk avec un outil de SOAR, un Splunk SOAR connecté pour aller automatiser, et je veux lancer telle technique et tactique du mitre. Et derrière, l'outil, automatiquement, il va lancer les attaques en s'appuyant sur des outils d'attaque type Atomic Red, Caldera, etc., suivant ce que tu veux lancer comme attaque. Et donc, très rapidement, tu vas pouvoir lancer une attaque ciblée sur une infrastructure que tu as montée très rapidement via du Terraform. Et tu vas pouvoir tester si ta détection fonctionne. Et si elle fonctionne, tu la pousses en production. Et comme ça, j'ai des clients qui font plusieurs dizaines de mises en production de détection par jour, parce que toute la chaîne est automatisée. Et le dernier outil qu'on a publié cette semaine, en fait, c'est un outil qui est capable de, comme c'est un peu lourd de monter toute une infrastructure, c'est un petit outil où tu lui dis, moi je veux simuler une attaque, et je veux lui simuler tel type d'attaque, et en fait il va te générer les logs qui correspondent à ce qui se passerait si tu avais ce type d'attaque dans ton environnement. Il va les injecter dans un Splunk, et comme ça tu vas pouvoir tester si tu as la bonne détection là-dessus.
Ah, fait que tu peux tester tes playbooks d'incidence, de réponse et tout, là. Ouais.
Ouais. Tu peux tester toute la chaîne, tu peux tester toutes tes détections, tes playbooks de réponse, et ça te permet d'être beaucoup plus agile dans ton approche de la sécurité.
Super.
Et du coup, d'appliquer des pipelines de DevOps à ces aspects-là.
Ouais. Puis t'as raison, c'est extrêmement rare d'avoir une visibilité de la sécurité du pipeline en tant que tel, fait que non. Très intéressant. Merci beaucoup. C'est une super expérience. Au plaisir de se reparler. Et vous retrouverez dans les show notes, évidemment, les liens vers les deux e-books, les sites de Splunk, autant Canada que France. Merci, Lionel. Super intéressant.
Oui, merci. Ouais, pardon. Pour les gens qui nous écoutent et que ça intéresse, on a plein de contenus en français sur le site de Splunk, donc on produit des blogs, on a du contenu autour de la sécurité, on a un podcast, on a aussi notre podcast autour de tout ce qu'on peut faire avec de la donnée, pas que, que autour de la sécurité. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à regarder ce qu'on produit. On a la chance d'avoir une super content manager qui nous produit plein de contenu francophone, donc autant en profiter.
Oui, tout à fait. Puis c'est pas tous les sujets qui sont couverts au complet en français, donc c'est super intéressant. Donc merci encore, merci Jacques, merci Gabriel de s'être joint à nous pour cet épisode. Et on se reparle dans quelques jours, tout le monde. Merci.
Aïe, bye tout le monde.
Aïe.
French Connection. Thank you.